7h20 minutes, campagne électorale. On arrive pratiquement au centre de cette campagne électorale-là. Au courant de la semaine prochaine, on en aura la moitié de franchie. Et, bon, d'autres promesses qui ont été effectuées au courant de la journée d'hier, dans la tournée, là, de ce qui a été proposé hier. Entre autres choses, bon, le Parti libéral a reculé, promet maintenant de limiter les tarifs de stationnement pour les hôpitaux à 7 $ par jour. Ça n'a pas manqué de faire réagir les partis d'opposition en disant qu'ils avaient quand même laissé aller le contrôle de certains stationnements des entreprises et que ça fait longtemps quand même qu'il y a des récriminations qui sont faites par les partis d'opposition à ce sujet. Donc ça fait partie des promesses. On aura l'autre engagement. Le Parti libéral fait toujours un peu la même chose. Aujourd'hui, le chef Philippe Couillard est à Trois-Rivières. Il va faire la promesse du jour ou l'engagement du jour aux alentours de 9h. Il sera à Saint-Tite ensuite pour le Festival Western. François Legault, lui, hier, qui a présenté son cadre financier, aussi décrié par ses adversaires. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur le cadre financier de la Coalition Avenir Québec parce qu'on y reviendra tout à l'heure avec Germain Belzile, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal, qui est passé au travers de tout ça pour voir est-ce que ça tient la route, ce qui a été présenté hier par François Legault. Il sera d'ailleurs à la fête des vendanges de Magog pour rencontrer les gens. Jean-François Lisée, lui, est à Québec, entre autres choses. Le Parti québécois hier qui a parlé, entre autres, d'éducation. On a dit d'éducation et de français, parce qu'on a dit que les anglophones qui devront suivre une session dans un cégep francophone devrait passer un test de connaissance du français avant que l'on délivre un diplôme d'études collégiales pour être sûr qu'ils en maîtrisent la langue. Et Manon Massé, elle, de son côté, les gens de Québec solidaire sont en Estrie depuis vendredi et ça se poursuit. Hier, c'était à Sherbrooke. Et on revient, entre autres, pour dans pas trop loin du patelin natal de Manon Massé, c'est-à-dire Saint-Georges-de-Windsor, où elle rencontrera également des militants. Donc, voilà pour ce qui est de la campagne électorale. Et je vous disais, hier, là, c'était le lançage de boîtes sur les médias sociaux, entre autres impliquant qui? Surtout François Paradis, qui est le critique en matière de santé de la Coalition Avenir Québec, et Gaétan Barrette, le ministre de la Santé, sur le cadre financier de la CAQ. Ça a commencé, François Paradis a piqué le docteur Barrette en parlant de hashtag, du mot-clé Barrettefield. Et lui a répliqué en disant, au lieu de fanfaronner, vous devriez regarder le cadre financier complètement loufoque qu'a présenté François Legault. Et ensuite, bon, se mêle à la conversation. Puis ça, moi, je trouve ça toujours particulier, là, quand le personnel politique se met au travers de ces discussions-là, parce que le personnel politique, des fois, peut aller assez loin. On l'a vu il y a quand même pas longtemps. Peut s'avancer, peut se mettre les pieds dans un plat pour un candidat qu'ils représentent alors qu'ils n'ont pas... Quand tu fais partie du personnel politique, là, dans ce cas-ci, on parle quand même du chef de cabinet, là, c'est Martin Koskinen qui a eu une discussion avec Gaétan Barrette sur le sujet. Mais pour les autres, là, puis j'en vois sur les médias sociaux des spinneurs là, qui vont aller te nous envoyer des histoires. Faut que tu fasses attention parce que dans ce temps-là, oui, tu parles pour toi, oui, tu représentes une partie, mais tu représentes également un candidat, puis il y en a qui s'avancent assez loin, puis tu dis « Hey boy, c'est jamais quand est-ce que ça va venir leur rebondir au visage. » Comme je vous disais tantôt, on va s'intéresser au cadre financier de la Coalition Avenir Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers à le présenter, puis on est en onde aujourd'hui, puis on aura l'occasion de s'intéresser à ça. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a un intérêt ailleurs au Canada pour la campagne au Québec? Une lettre ouverte dans la Presse Plus aujourd'hui propose finalement en disant les campagnes historiquement, puis c'est une étudiante de l'Université de l'Alberta qui raconte ça. Elle dit historiquement, les campagnes québécoises ont toujours quand même défrayé ou ont suscité un peu d'intérêt au Canada anglais parce que ça a été, on ne se le cachera pas, depuis 50 ans, beaucoup des campagnes en mettant en opposition le mouvement souverainiste au fédéralisme. Les rouges contre les bleus, les libéraux contre les péquistes. Et à ce moment-là, il y avait quand même des grandes questions aussi. Puis en dehors des campagnes qui étaient au-delà du référendaire, on parlait aussi bon des avancées, ben, le système d'éducation qui avait été mis en place par Paul Gérin-Lajoie et d'autres avancées comme celle-là dans les propositions qui avaient été faites à l'époque. Mais cette année, et je dois vous dire que ben, c'est pas scientifique ce que je vous raconte là. Je regarde dans mon entourage, là, mais ça représente ce qu'on voit ici. c'est-à-dire un intérêt très mitigé sur la campagne, où il y a des annonces, on est dans le clientélisme, très, très, très ciblé, mais de grands projets de société, là, ou de grands enjeux. Là, on a parlé de l'immigration, tout ça, mais on est en surface. On va jouer dans des choses de surface pour des clips, alors que les partis se dédisent le jour d'ensuite, parce qu'on se rend compte que dans les propositions faites, ça ne tient pas toujours la route. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple. Ça veut dire, ça vient d'un tiers parti, puis ça a peu de chances d'arriver, mais quand même. Quelque chose qui a eu un peu de relais sur les médias sociaux. Puis je vais aller au-delà de la façon dont on a véhiculé le message, parce que c'était risible. Le Parti conservateur du Québec présente par son chef, Adrien Pouliot, une proposition qui va dans la veine de celle des conservateurs de l'Ontario, c'est-à-dire d'éliminer la taxe sur le carbone, la taxe carbone sur l'essence. C'est légitime, ils font campagne là-dessus, puis ça va rejoindre des électeurs, puis ça va rejoindre un certain nombre de personnes. Il fait sa démonstration, il y a un gros, une camionnette, un RAM 1500. Il dit, avez-vous idée combien de taxes qu'on paie pour remplir ça? Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule électrique. C'est un peu paradoxal quand tu prends un véhicule qui vaut 50 000 $ en moyenne versus des véhicules électriques qui en coûtent moins. Puis là, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de camionnettes, etc., etc. Mais comme je vous dis, j'évacue la façon dont le message a été véhiculé, mais juste sur la proposition. Éliminer la taxe sur le carbone. Je me suis mis à faire des calculs pour le plaisir. Puis je vous dis pas que je suis en accord, puis je vous dis pas que moi aussi, je trouve qu'il y en a trop de taxes partout, puis je trouve que ça coûte cher, puis la vie est généralement dispendieuse. Mais je me suis amusé à faire un calcul sur la taxe sur le carbone. Savez-vous ce que ça représente à peu près, la taxe sur le carbone? La taxe est chargée aux pétrolières qui la refilent ensuite aux consommateurs. Ce qu'on pense, là, c'est à peu près 5 % du prix du litre qui représente la taxe sur le carbone. Ça, par calcul, là, un véhicule moyen, ça consomme environ quoi, 7 litres au 100. L'automobiliste moyen, quand tu regardes les primes d'assurance, c'est à peu près 20 000 km par année. C'est comme ça qu'on le calcule. Je me suis amusé et quelqu'un qui décide d'acheter un véhicule qui fait un demi-litre de moins aux 100 km, un demi-litre, c'est pas énorme, là. On peut être dans le même groupe de véhicules puis avoir un demi-kilomètre de moins sur un véhicule moyen. Ou qui achète un véhicule qui coûte 1000 $ de moins à l'achat, ça va être plus rentable pour lui de prendre cette décision-là que d'éliminer la taxe carbone sur l'essence. Il va économiser plus en faisant ce que je viens de vous dire auparavant, un ou l'autre, que l'élimination de la taxe sur le carbone, parce que de toute façon, il n'y a rien qui dit que la pétrolière va le laisser au consommateur ensuite, parce que c'est inclus dans le prix de vente à la rampe. Ça frappe l'imaginaire. T'sais, on dit, la taxe sur le carbone. Ben oui, tu sais. Mais quand tu te mets à calculer ça, tu te dis, OK, finalement, pas grand-chose au bout de l'année. Là. C'est moins de 100 $. C'est pas compliqué, là. Et il y a d'autres façons où vous êtes sûr vous-même d'économiser cet argent-là en prenant des décisions pour vous-même sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Donc, imaginez-vous quand on est dans des propositions là, de 300 puis 500 millions, puis de 1 milliard ici, puis de 3 milliards pour là. Comprenez-vous, puis là, je m'adresse aux gens des partis politiques, comprenez-vous que vous perdez les électeurs, puis que ça les intéresse pas, puis ils savent pas démêler qu'est-ce qui est le bon, puis du bon. Puis c'est pas parce qu'on est imbécile. C'est parce qu'on joue dans des rayons qui sont tellement grands sur lesquels on n'a pas de contrôle que parler aux gens, parler au monde. Et c'est comme ça que vous allez les intéresser, à moins que vous n'en ayez rien à cirer. Des fois, là, c'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression qu'on fait des propositions, puis on se dit que c'est tellement gros les chiffres qu'on ne sera pas en mesure de déménager. On dit l'expression, là, une chatte, il perdrait ses petits. Là. Ben, c'est un peu la même affaire lorsqu'on est dans ce genre de proposition. Là. Ceci dit. Lise Payette aura droit à une commémoration qui sera nationale. Je fais attention parce que je veux pas dire funérailles nationales, parce que les funérailles ont une connotation religieuse et elle a demandé un hommage parce qu'elle était athée. Là, ce sera un hommage d'envergure nationale pour elle, finalement. C'est ce qu'a annoncé la ministre Christine Saint-Pierre. Vous l'avez entendu aux nouvelles tout à l'heure. Donc, parmi les différentes propositions, puis qu'on soit en accord ou non, les derniers moments de vie de Lise Payette n'ont pas été très reluisants dans ses prises de position. On pense à l'affaire Jutras, on pense à l'affaire, entre autres, qui avait impliqué une jeune dame qui voulait porter plainte, qu'elle aurait tenté de décourager pour une histoire d'harcèlement sexuel. Ceci dit, elle, pour ce qui est de Lise Payette, dans sa carrière politique, qui fut relativement courte, il faut le dire, la Société de l'assurance automobile du Québec à laquelle elle a participé, la façon, même si dans la cause des femmes dans laquelle elle a été impliquée toute sa vie, donc c'est un hommage national qui lui sera rendu. Parlons des migrants cette fois parce que le Toronto Star s'intéresse au nombre de personnes qui ont été retournées, qui ont été déportées carrément. Et on dit que c'est un nombre qui n'est pas significatif. Un peu plus de 32 000 personnes ont été reçues comme des immigrants irréguliers ici au Canada et qui ont fait des demandes d'asile ici au pays en traversant la frontière américaine, de la frontière américaine à la frontière canadienne. Il y en aurait pas tout à fait 400 qui ont été déportés jusqu'à maintenant. Et ce que dit le Toronto Star, on dit quand vous regardez le nombre de personnes puis de dossiers qui ont été traités, ça veut dire qu'il y en a une méchante pile encore qui reste à régler et ça va prendre des années à démêler. Un an plus tard, on a à peu près 400 dossiers de régler ou de gens qui ont été déportés carrément. Puis on disait, à l'époque, on va être dans quoi? Du 40 à 50% peut-être des gens qui ont traversé la frontière ici, qui vont être retournés vers le pays d'origine. Puis si on ventile les chiffres, entre autres, dans les gens qui ont été soit retournés aux États-Unis pour 146 d'entre eux, parce qu'il y en avait 100, il y en avait quand même qui avaient de la nationalité américaine. Il y en a d'autres dans 53 pays, majorité Haïti à 53, la Colombie, la Turquie, ainsi que l'Irak. Et pour il y a 48 d'entre eux qui étaient âgés de moins de 17 ans, 238 des 398 étaient des hommes, les autres étant des femmes. Donc voilà pour le dossier des migrants que le Toronto Star investigue aujourd'hui. Autre élément également, Universitas. Vous savez que le fonds qui sert finalement, le fournisseur de régime enregistré d'épargne études se retrouve dans une tempête déjà depuis un certain temps. C'est un changement apporté l'an passé qui fait pas le bonheur des parents qui ont été cotisants. C'est qu'on avait promis certaines sommes. Puis comment fonctionnait en gros Universitas? Vous achetiez un plan et on payait avec le succès de la personne à l'accession à des études postsecondaires, que ce soit le diplôme technique, que ce soit le diplôme d'études universitaires. Et la personne devait avoir une réussite pour avoir le paiement qui vient avec. Et il y avait un engagement qui était pris par le parent, puis en défaut de paiement, bien, il y avait des sommes qui étaient perdues. Puis avec le nombre, c'était la force du nombre finalement. Il y avait des gens qui ne se rendaient pas au bout du cursus. Il y avait des gens qui étaient en défaut de paiement à un certain moment donné. Et ben, les sommes qui étaient restantes étaient réparties aux autres qui réussissaient. Donc, on disait, mettons, si vous investissiez une somme X, ben on vous promettait Y au bout parce qu'on se disait, on est capable de prévoir à peu près les fonds qui sont là si on le divise en groupe. C'est ce qui fait la différence entre ça et un régime d'épargne-études que vous pouvez aller contracter à votre caisse ou avec n'importe quelle institution financière. Il y a eu des changements, puis on dit, au lieu de faire ça, on va donner l'argent à des personnes qui, à partir du moment où elles s'inscrivent dans le cursus post-secondaire, donc on va commencer à payer à ce moment-là, si bien que ben, les factures vont diminuer quand même, pas les factures, mais les retours vont changer pas mal. T'sais, je vous donne un exemple qui a été relayé là, dans les médias. On promettait 11 000 $ pour un, mais avec les nouveaux changements administratifs, on se retrouvait à 8 000 quelques dollars. Donc, c'est une perte d'à peu près 3 000. Il y a des parents qui sont en furie. Et là, il y a une demande de recours collectif on veut tenter un recours civil, finalement, contre Universitas pour ces changements que l'on déclare illégaux. On parle de l'Association des souscripteurs et bénéficiaires du RRE collectif, qui sont maintenant 2600 parents qui suivent la page Facebook, de nous rappeler aujourd'hui Stéphanie Grandmont dans La Presse Plus. On va suivre ça, puis Yves McSween en fera certainement un suivi avec vous au courant de la semaine également. Il est 7h34.